Bonjour Jean-Jacques Milteau.
Bonjour.
Vous présentez ce soir à l'Alhambra à Paris votre nouvel album, album enregistré avec Eric Bibb, Lead Belly is Gold.
Lead Belly is Gold, oui. J'irai notre nouvel album parce que c'est vraiment c'est un travail d'équipe.
Et c'est la première collaboration ?
Sur disque, oui, j'ai joué un petit peu d'harmonica sur un album précédent d'Eric, oui. Mais on se connaît depuis une dizaine d'années en fait. On se croise, on a joué ensemble déjà sur un certain nombre de scènes.
Et c'est presque naturel, on va dire, comme duo. On a l'impression que vous avez déjà entendu, déjà vu souvent.
Mais ça a été très agréable. Enfin, c'est très agréable à jouer sur scène. C'était très agréable à enregistrer aussi parce que Eric est un garçon facile à vivre.
Et vous aussi.
Je ne sais pas. Faut demander à ma compagne. Mais en tout cas, ça a été très très facile finalement de travailler ensemble.
Et à vous deux, vous avez souhaité rendre hommage à un autre musicien, un compositeur, et à quelqu'un de très engagé.
Oui, en fait, c'est une idée de Philippe Langlois, qui est le patron de Dixie Frog, qui a fait un vrai travail de producteur. C'est-à-dire qu'il est un fan de Led Belly, donc de cet artiste, depuis qu'il est tout petit. Et il avait envie de faire un hommage à Led Belly, et il nous a proposé à chacun d'entre nous de travailler dessus et de collaborer ensemble pour cet album qui s'est appelé Led Belly's Gold au final.
Oui. Et c'était pour vous un artiste aussi très important?
J'ai pas mal écouté parce qu'en fait il a beaucoup joué avec un harmoniciste qui s'appelle Sonny Terry,
oui.
qui est le premier harmoniciste sur lequel j'ai travaillé, donc j'avais écouté pas mal de ses œuvres. It's mine. He's looking for his glass. Il recherche son verre et son verre est derrière. Merci.
Oui, c'est quelqu'un dont vous aviez envie de reprendre les compositions.
Oui, parce qu'en fait, c'est un des premiers artistes crossover, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un bluesman. Hein, il joue des blues, mais il joue beaucoup de chansons.
Oui.
Et ce qui était le cas de la plupart des artistes noirs, mais simplement quand on les a enregistrés, les producteurs voulaient qu'ils enregistrent du blues essentiellement. Donc voilà. Et autant c'est difficile de reprendre un blues après un bluesman, que ce soit B.B. King ou Muddy Waters. Tous les grands bluesmen, autant les chansons, c'est des choses à colporter, c'est-à-dire c'est des choses qui circulent assez facilement. D'ailleurs, Led Belly a fait beaucoup de choses pour les enfants, il a beaucoup joué pour les gosses, il avait un très bon rapport avec les enfants. Et il y a un côté assez naturel, assez populaire dans le bon sens du terme, je dirais, dans la musique de Led Belly.
Oui, et le côté crossover, ça vous parle aussi depuis longtemps,
hein, oui, parce
l'absence de frontières dans la musique.
Il faut essayer de défrontiériser.
Et c'est quelqu'un dont on connaît aussi les compositions grâce à des groupes qui ne sont ni folk ni blues. Je pense à des groupes plutôt rock comme Nirvana
ou Creedence Clearwater dans les années 60-70. Beaucoup d'artistes de Sinatra à Dylan ont chanté des chansons de Led Belly. Il est mort en 1949 et l'année suivante, en 1950, Goodnight Irene a été un des plus gros succès de l'année. C'est vendu à des millions d'exemplaires en 78 tours, chanté par les Weavers.
Ouais.
C'est assez significatif.
Vous auriez pu choisir l'option électrique pour l'enregistrement. C'est pas du tout ce que vous avez choisi.
Non, en fait, Eric est plutôt un guitariste acoustique et l'idée c'était de faire ça près des gens. C'est pour ça qu'on a enregistré, la plupart des titres ont été enregistrés live au Sunset à Paris, dans une petite salle de 100 et quelques places. Ça correspond à la forme de public qu'avait Led Belly à l'époque aussi. Donc il y a une cohérence dans tout ça. Je pense que surtout ça nous a obligés à rester naturel, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un disque qui est produit, c'est un disque qui est joué.
Qui aurait pu être un disque d'un duo.
Oui, tout à fait, mais on s'est adjoint à Larry Crockett à la batterie et Gilles Michel à la basse parce que ça donne un peu plus de richesse, ça nous permet de nous reposer sur une rythmique aussi de temps à autre et de changer un petit peu les arrangements de Led Belly qui lui jouait tout seul le plus souvent avec sa guitare à 12 cordes.
Ouais. Je disais tout à l'heure quelqu'un d'engagé également, Led Belly.
Oui, tout à fait, à la fois volontairement et involontairement, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait, comme on dit, la tête près du bonnet. Hein.
Se mettre en colère facilement.
Oui, il pouvait se mettre en colère, puis il avait des raisons de le faire. Et il a été en prison assez jeune. Et il a été sorti de prison par son talent, finalement, puisque c'est des musicologues, John et Alan Lomax, qui l'ont rencontré dans la prison d'Angola, en Louisiane, et qui ont intercédé en sa faveur auprès du gouverneur pour qu'il soit libéré. Et je crois que la moyenne des peines de prison au pénitencier d'Angola, c'est 88 ans. Donc il y a très peu de gens qui sortent, hein, ou alors il faut qu'ils commencent très jeunes. Et il a eu beaucoup de chance pour ça. Et pour revenir au côté engagé, du coup, c'est quelqu'un qui a su très tôt ce qu'était la condition de paria, quoi, quelque part. Et ce qui est assez drôle, c'est que vous savez, les gens qui vous interviewent quand vous sortez un album disent mais qu'est-ce qui rend d'actualité la musique de Led Belly. En fait, je réfléchissais à ça, je me disais que c'est quelqu'un qui vient d'une société post-esclavagiste, une société de métayage, de servage. Et ce qui tenait la plupart des gens, qu'ils soient noirs ou blancs d'ailleurs à l'époque, particulièrement dans le sud, c'était la dette. C'est-à-dire qu'en fait, ils devaient de l'argent aux propriétaires de leurs terres et ils n'arrivaient jamais à rembourser. Et ça, c'est plutôt d'actualité.
Et vous avez l'impression d'en avoir une dette vis-à-vis de lui,
à son égard,
les musiciens en général, pour
oui,
vous,
bien sûr,
qui ont votre sensibilité.
Tout à fait. On en parlait tout à l'heure avec Eric et on disait que tout ça, c'est un héritage. C'est comme la peinture italienne, la cuisine française, les philosophes allemands. C'est un héritage pour l'humanité et c'est à nous de faire fructifier cet héritage.
Ces titres, comment vous avez souhaité les réarranger s'ils le sont?
Vous savez, on ne s'est pas cassé la tête. Hein. Je veux dire, on a joué, on a commencé à jouer, et puis à un moment, on s'est dit, tiens, ici, ça serait bien de mettre ça, fais voir tel accord. Lui, il avait réfléchi à quelques grilles d'accords différentes. Eric avait travaillé un petit peu là-dessus. On n'a pas voulu produire quelque chose, c'est-à-dire on a voulu essayer de jouer un peu comme on aurait joué assis en rond en fin de soirée. Quoi.
Et vous allez le jouer sur scène à Paris et en province avec la formation qui est présente sur le disque?
Tout à fait, oui.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a quelques morceaux qu'on fait en duo, mais la majorité des morceaux sont joués avec Gilles Michel à la basse et Larry Croquette à la batterie.
D'accord. Et avec Eric Bibb, vous accordez vos plannings pour pouvoir tourner ensemble?
Oui, là on va tourner encore un petit peu ce mois-ci, et puis Eric va repartir vers d'autres aventures et moi aussi. Et on se retrouve, je crois, au mois de mars pour une grande tournée.
On le sait, en vous écoutant les dimanches soirs sur Jazz Radio dans Bon Temps Roulé, connaître la vie des musiciens, la sociologie, l'environnement, l'histoire, c'est aussi important que connaître le son, les grilles d'accords ou la musique même, c'est vraiment...
Je sais pas, mais ça fait partie du plaisir. C'est quand même la vie des gens, quoi, la musique. Ouais. Enfin, pour moi, c'est un type comme Led Belly, c'est l'histoire d'une bonne partie du XXe siècle. Il est mort en 49, donc il est né fin du XIXe siècle. C'est cette espèce de passage d'une société agricole, finalement, dans laquelle il est né, lui. Et en France, c'était un peu la même chose. Hein. La plupart des gens qui ont fait la guerre de 14 étaient des paysans.
Oui.
Et en fait, c'est cette espèce de transformation vers la ville, vers une nouvelle société, finalement, qui a pris 70 ou 80 ans à éclore, sans porter de jugement. Hein. C'est pas du tout pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est un témoin.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Jacques Pilteau.
Merci à vous.
Merci.